Merci de votre écoute. Tout de suite, le grand témoin avec Louis Dauphren.
Et on est toujours à Rome, avec bien sûr nos journalistes, et puis vous avez pu vivre, grâce à notre antenne, toutes les célébrations du temps pascal. Je suis avec Marcel Padovani, journaliste, correspondant du Nouvel Observateur, depuis, tenez-vous bien, 1974. C'est donc une vue sur l'Italie, l'actualité, l'histoire récente de l'Italie, aussi sur ce monde romain si particulier. Bonjour Marcel Padovani.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben écoutez, fort bien, à Rome, on va forcément bien. On est dans le quartier du Trastevere, c'est un quartier bien particulier.
C'est un quartier prolétaire et intello en même temps, un quartier bobo. Donc c'est un quartier très 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 vivant qui donne à 60% ses voix à la gauche, ce qui est assez original pour Rome, et qui est donc peuplé de gens assez créatifs et communicatifs et qui ont cette double âme qui donne de l'intérêt évidemment au quartier.
Vous êtes corse d'origine?
Je suis corse, oui, et je suis venue vivre en Italie en 74 quand j'ai demandé à mon journal de m'envoyer comme correspondant parce que j'avais fait ma thèse sur la gauche française et italienne de 1944 à 1947.
Les années 70, c'était les années de plomb en Italie.
C'était les années de plomb, c'était les années du terrorisme noir, c'est-à-dire fasciste, qui militait avec des bombes pour faire tourner les exécutifs vers la droite et vers la répression, et qui a été concurrencé par le terrorisme rouge, qui est né quelques années après, et qui, lui, voulait balancer l'État parce qu'il était trop envahissant. Alors, il y avait le terrorisme noir qui voulait plus d'État et plus de répression, et le terrorisme rouge qui voulait dire moins d'État. Formidable, non ?
Marcel Padovani, le climat social s'est quand même beaucoup apaisé en Italie par rapport à cette période-là.
Considérablement apaisé. Et il a beaucoup changé en ce sens que, bon, un certain bien-être s'est répandu, il faut le reconnaître. Il y a été des années assez riches du point de vue productif et du point de vue de la distribution de la richesse. Et c'est un climat qui a changé aussi parce que, comme dans les autres pays occidentaux, les classes dirigeantes ont décliné. Les classes dirigeantes syndicales, politiques, économiques. Et il y a un manque de leaders, un manque d'invention, un manque de prise en compte des nouveaux problèmes de nos sociétés qui est venu très, très, très important en ce moment en Italie.
Silvio Berlusconi avait redonné une certaine fierté, non, à l'Italie ?
Il avait donné de la publicité, je ne sais pas si c'était de la fierté, mais de la publicité sûrement. Et surtout, c'est lui qui a incarné la naissance du populisme en Italie. Quand il a débarqué en 1994, il a créé un parti à partir de rien, sans aucune structure, sans aucune idéologie, sans rien, qui était simplement Vox Populi, la voix du peuple. Hein, très bien. Et ses successeurs actuels, qui sont les populistes d'aujourd'hui, se sont divisés. D'un côté, il y a les populistes d'extrême droite, et de l'autre côté, il y a les populistes d'extrême gauche. Mais de temps en temps, ils votent ensemble à l'Assemblée. Le populisme prend le dessus, ce qui fait que le centre gauche en Italie, est coincé entre deux extrémismes.
On a l'impression que l'Italie est aussi le pays des fulgurances. On a vu par exemple un certain Beppe Grillo marquer la vie politique italienne et on ne sait même pas ce qu'il est devenu.
Beppe Grillo, ça a été un des successeurs de Berlusconi en ce sens qu'il était, c'était le populiste soi-disant de gauche. Alors il a un tout petit peu disparu par rapport au parti qui s'est constitué, qui s'appelle le Mouvement 5 étoiles, mais il existe encore et il a de temps en temps... Il fait une sortie. Il était amusant en un certain sens parce que c'était un comique, une espèce de Coluche, disons. Un comique qui faisait tout à coup de la politique.
Comment voyez-vous le pouvoir exercé par Giorgia Meloni aujourd'hui ?
Alors, le pouvoir exercé par Giorgia Meloni est difficile à classer. C'est une post-fasciste. Elle a été fasciste. Elle ne l'est plus. OK ? Mais elle a gardé quelque chose qui est l'esprit d'équipe, les copains, les amis, le petit monde autour de soi. On défend les amis. Et alors, elle, qui est une personne, je l'ai rencontrée plusieurs fois, elle est intelligente, hein, elle s'est adaptée, elle a su s'éloigner des vieux slogans et des vieilles méthodes, mais elle n'a pas su créer une classe dirigeante. Donc elle est toute seule au milieu d'un amas d'anciens fascistes qui n'ont encore pas compris que le fascisme c'était fini. Hein. Voilà, ça reste un problème.
Est-ce qu'elle a tenu ses promesses ?
Elle a tenu ses promesses relativement. Par exemple, elle a adhéré à l'Union européenne. Elle n'attaque plus l'Europe. Elle n'est plus fidèle de Poutine. C'est déjà quelque chose. Et elle soutient Zelensky en Ukraine. Ça aussi, c'est assez défendable, je dirais. Donc, d'une certaine façon, elle a appris la leçon. Elle est plutôt centriste, je dirais, comme genre. Mais elle n'a pas les moyens de sa politique.
Sur les migrants,
elle a rien fait sur les migrants. Elle a fait une chose absolument invraisemblable, qui est de signer un accord avec l'Albanie pour soi-disant éviter les migrations vers l'Italie. Alors cet accord permet à l'Italie de construire deux centres d'accueil très importants en Albanie à ses frais, à l'Italie, hein, à gérer ces centres à ses frais et à y transporter, elle, l'Italie, les migrants qui auraient débarqué dans la péninsule. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement compliqué et qui n'empêche pas l'arrivée des migrants, si c'était ça son problème. Il y en aura au maximum 15 000 par an qui auront été éloignés vers l'Albanie. Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait sur les migrants.
Marcel Padovani, est-ce que les migrants sont mis en esclavage dans l'Italie du Sud mafieuse ?
Je ne suis pas d'accord. Voilà, moi je trouve que l'Italie est un des rares pays qui traite bien ses migrants. Mais pas parce qu'il y a une ligne politique qui soutient la chose, pas du tout. C'est une tendance naturelle. Surtout le sud de l'Italie est très, très ouvert aux migrants. Et on utilise. Mais il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas une quelconque entité entrepreneuriale qui naît son lot de migrants qui travaillent. Et l'agriculture du sud, c'est les migrants qui la font.
Mais on avait vu des images de révoltes de migrants dans le sud.
Oui, ils ont fait des révoltes quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais dans l'ensemble, je vous assure que les migrants au sud sont beaucoup mieux traités qu'au nord, beaucoup mieux assimilés et beaucoup mieux tolérés.
Comment l'expliquez-vous ?
Mais je l'explique par la tradition, parce que le sud a toujours été, ou est développé, le sud a toujours été un pays d'émigration, parce que les Italiens du sud vont travailler ou bien au nord ou bien aux États-Unis ou en Amérique latine. Alors il y a besoin d'une main-d'œuvre de base, et la main-d'œuvre de base aujourd'hui, ce sont les migrants qui la donnent.
Est-ce qu'il y a un risque que l'Italie soit coupée en deux de régionalisme excessif ?
Oui. Il y a un risque réel qui pourrait être accentué par des réformes qui sont en cours et qui favoriseraient nettement, du point de vue économique, le Nord. Donc le Sud serait à nouveau, considéré comme secondaire, comme pas important du tout, et qu'il en paierait le prix du point de vue de l'économie, de la richesse et de la production.
Ce qui caractérise la vie politique italienne, c'est quand même un parlementarisme très fort. Et le poids d'un président aussi qui, mine de rien, compte.
Bon, le président compte beaucoup parce que la Constitution italienne, moi je me souviens de mes études à Sciences Po à Paris, et on nous avait appris que la Constitution italienne était la meilleure du monde. Et d'une certaine façon, c'est vrai, parce qu'elle réussit à équilibrer la représentativité avec un parlementarisme accentué, Et à un moment donné, avec la proportionnelle. Hein, maintenant, c'est un peu en train de changer. Et avec, par contre, en revanche, un président de la République qui est au-dessus des partis, qui dure pour 7 ans, qui n'est pas choisi par un plébiscite, par une élection, mais qui est choisi par les classes dirigeantes, disons, et qui rend compte uniquement à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un, depuis que je suis en Italie, hein, ça va faire presque un demi-siècle, eh bien, je n'ai pas vu un président de la République, de droite, de gauche ou du centre, qui se trompe. C'est quand même extraordinaire. Il y a la sensation de représenter vraiment le pays. Et en représentant vraiment le pays, il a un poids sur l'exécutif tel qu'il est et sur la vie politique telle qu'elle est.
Pourtant, les Français ont peut-être une forme de condescendance à l'égard de l'Italie, à considérer que c'est toujours un petit peu une commedia dell'arte et que tout cela n'est pas bien sérieux.
Et mais ça, c'est typiquement français. Hein, c'est un défaut des Français, c'est pas un défaut des Italiens. Ce que je veux dire, c'est que les Français débarquent souvent ici avec l'idée d'une supériorité numérique, de supériorité de beauté, supériorité d'intelligence, supériorité de productivité. Et quand ils sont confrontés à des réalités italiennes créatives, nouvelles, etc., alors ils crient au miracle. Il n'y a pas des miracles en Italie. Il y a une créativité vraie qui est beaucoup moins organisée qu'en France, qui est beaucoup moins, comment dire, structurée, mais elle existe, elle est importante et elle est concurrentielle.
Dans ce quartier du Trastevere où nous nous trouvons, Marcel Padovani, il y a peut-être le futur pape.
Ah oui, alors ça c'est la meilleure. Le futur pape, c'est un curé de la paroisse de Santa Maria du Trastevere. Et c'est là que j'ai débarqué en Italie, il y a 50 ans. Et j'ai commencé à le fréquenter parce qu'il était curé de la paroisse en face de mon domicile. Et on prenait le café le matin ensemble. Il s'appelle Matteo Zuppi. Il était curé, il est devenu évêque, il est devenu archevêque, il est devenu cardinal et il est maintenant cardinal-archevêque de Bologne. Et on parle de lui avec beaucoup d'insistance comme le futur pontife, parce qu'il représente un peu la succession de François, c'est-à-dire ce rapport direct avec le peuple de Dieu. Et en même temps, il a une formation, je dirais, très à gauche, qui a un rapport privilégié avec les pauvres, avec la misère, avec les difficultés à vivre. Donc il a un joli profil.
Et quand on dit « c'est le futur pape », on sait souvent que la réalité fait mentir les pronostics.
La réalité fait mentir les pronostics, mais on ne peut pas savoir, parce que la façon dont François a réorganisé le conclave, avec beaucoup, beaucoup de prélats qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, etc., il n'y a plus une majorité européenne. Hein, qui pourrait élire un pontife européen. Donc, il est très, très possible qu'on ait, au contraire, un pontife africain ou asiatique.
Les relations entre l'Italie et la Cité du Vatican, en particulier avec Giorgia Meloni, étaient un petit peu tendues. Ça s'est arrangé?
Alors, les rapports avec le pape sont difficiles. D'abord, le pape, disons, a des rapports difficiles avec la curie, c'est-à-dire avec quand même l'essentiel de l'Église. Et il a des rapports, au contraire, très faciles avec le peuple entre guillemets, c'est-à-dire les gens. Et pas forcément les catholiques. Hein, parce que c'est un pape qui est très aimé par les non-croyants, très apprécié pour son côté dégingandé, son côté, comment dire, à la limite presque irresponsable. Mais c'est quelqu'un, non, je veux dire irresponsable en ce sens qu'il ne rend pas compte devant des instances. Et il a ce rapport facile, un tout petit peu démagogique, mais qui plaît beaucoup aux non-croyants.
Il passe par-dessus la tête des autorités.
Complètement, les autorités italiennes et les autorités de l'Église.
Sur le lien entre l'Italie et le Vatican en soi, ce sont des liens qui sont très très forts ou qui sont un petit peu distendus depuis l'arrivée d'un pape argentin?
Ils sont complètement distendus. Il y a eu une période où c'était, on avait quelquefois l'impression qu'avant de désigner un président du Conseil, le président de la République en parlait avec le pape en exercice. Maintenant, c'est des rapports pratiquement inexistants. Il n'y a aucune influence directe de l'Église en tant que telle sur le choix des hommes politiques, sur le choix des lignes politiques. Et ça, d'une certaine façon, c'est un progrès de la laïcité, c'est un progrès de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir de croire et le pouvoir de gérer, eh bien, c'est la situation actuelle. Il y a eu une période où il y avait des rapports entre les restes de la royauté et les restes de l'aristocratie italienne qui avaient des rapports privilégiés avec la curie, peut-être aussi avec le pape, avec la curie sûrement. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait vraiment gratter beaucoup pour trouver un couple inédit entre un archevêque, un évêque et un président du conseil. Hein. Franchement.
La mafia, vous avez beaucoup écrit dessus. C'est vraiment l'un de vos sujets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise en fait la mafia au-delà du terme que l'on peut employer de manière un peu générique et un peu facile ?
Bon, il y a plusieurs mafias en Italie. L'Italie a inventé la mafia et aussi l'anti-mafia. Mais je vais vous dire que les mafias ont été d'une certaine façon battues. Les mafias, en tant qu'organisation violente, pratiquant l'homicide, pratiquant les attentats, etc., cette mafia-là, elle a cessé d'exister. Si vous pensez qu'en 1981, il y avait 100 morts par an à Palerme pour des raisons de mafia, aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a 3. Donc ça fait comprendre qu'une certaine mafia sanguinaire, une certaine mafia violente est morte, est quasiment morte. Okay. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il y a une autre mafia qui est née et qui est une mafia beaucoup plus intelligente, beaucoup plus subtile et qui connaît les rouages de l'économie et qui connaît les moyens de jouer en bourse et les moyens de s'insérer dans les capitaux des grandes entreprises et qui est, d'une certaine façon, ce qui était le pire du capitalisme, c'est-à-dire la capacité à être corrompu et à corrompre, la capacité à faire du recyclage, la capacité à faire de la fraude fiscale. Eh bien, la mafia est arrivée avec ses hommes et elle a fait sienne ses pratiques. Et aujourd'hui, moi, je viens d'assister à un colloque à Milan, à l'Université catholique de Milan, et le résultat de ce colloque, c'est que cette mafia-là, dite économique, est beaucoup plus difficile à combattre parce qu'elle est beaucoup plus insérée intelligemment dans les rouages de l'économie.
Et ça veut dire, Marcel Padovani, que si elle n'est pas aussi violente qu'avant, c'est qu'elle n'a plus besoin d'utiliser la violence.
C'est qu'elle n'a plus besoin d'utiliser la violence et c'est qu'elle a compris. Le problème de la mafia, c'est se faire de l'argent. Quand elle tue, c'est parce qu'elle a un adversaire, c'est parce qu'elle veut s'enrichir. Et elle a trouvé un moyen de s'enrichir qui est beaucoup plus honnête, je dirais. En tout cas, moins malhonnête et moins sanguinaire.
Est-ce qu'on peut mesurer son poids dans l'économie italienne ?
Ça, c'est difficile. Ceci dit, là, toujours dans ce colloque à Milan, j'ai appris que sur 1 million d'entreprises qui avaient été en Lombardie contrôlées par les gens qui organisaient le colloque, et l'association qui l'organisait s'appelle Transcrime, eh bien, 30% avaient des fonctionnements illégaux. 30%. C'est énorme.
C'est considérable. C'est plus le sud que le nord, évidemment, ou alors...
Ah non, c'est plus le nord que le sud, parce que la richesse économique, elle est au nord, elle n'est pas au sud. Alors la mafia, elle est en Lombardie, elle est aussi en France, elle est en Allemagne, elle est dans les pays de l'Est, elle est bien insérée.
Est-ce qu'il y a toujours une culture qui différencie la mafia calabraise de la mafia sicilienne, des types de mafia ? Est-ce qu'il y a toujours cette idée-là ?
Bon, il y avait au départ des personnages, des types humains qui étaient différents. Hein. Les mécanismes étaient les mêmes. Les mécanismes étaient le contrôle à travers des familles et à travers des organisations. La grande différence, c'était que la mafia sicilienne, Cosa Nostra, avait un mécanisme de fonctionnement qui pourrait être qualifié de démocratique, en ce sens que la commission des mafiosi se réunissait et élisait son secrétaire général. La mafia calabraise, c'est tout à fait le contraire. La mafia calabraise, ce sont des familles qui se mettent ensemble et qui constituent une espèce d'organisme de gestion collective. La mafia napolitaine, c'est encore autre chose. C'est plutôt du banditisme de rue et du banditisme lié à la diffusion de la drogue.
Les papes ont eu des mots très durs contre la mafia. Ça a fonctionné ? Est-ce qu'ils ont eu une influence ?
Non, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ça a eu de l'effet. D'abord, ça a stimulé les prêtres. Il y a eu beaucoup de prêtres qui se sont engagés dans la bataille contre la mafia, avec beaucoup de succès. Et ils l'ont d'ailleurs payé. Il y a au moins 3 prêtres qui ont été assassinés parce qu'ils étaient anti-mafieux. En Sicile et en Calabre. Et donc, ça a eu un très, très, très bon effet. Ça a eu un très bon effet sur la mobilisation de la société civile. Il y a eu beaucoup d'organisations d'origine catholique qui se sont engagées dans la guerre.
La Banque du Vatican, le Vatican a été mêlé à la mafia, même à son corps défendant ?
C'est probable. C'est non seulement possible, c'est probable. Mais on est en train d'en sortir. Je crois qu'il y a là en ce moment un procès qui est organisé par les tribunaux du Vatican qui regarde la Grande-Bretagne et l'Italie où il y a eu des transferts de monnaie importants et c'est en train d'aboutir.
Merci beaucoup Marcel Padovani. Merci de nous avoir reçus dans ce beau quartier du Trastevere à Rome, et je rappelle que vous êtes correspondant du Nouvel Obs depuis 1974.
Merci. Da pace che sta amara nottata. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi siti d'acqua e già io siti d'amore. Acuna casa faccia lo barcone lo tempo passa ma una giorna non c'è mai sole se già un torna la terra mia e io